Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, un an après, a-t-on tiré les enseignements des effondrements de la rue d'Aubagne à Marseille? 8 morts, plus de 3500 délogés. Les effondrements de 3 immeubles dans la rue d'Aubagne il y a un an ont touché profondément la ville de Marseille en son cœur. Mais d'une telle catastrophe urbaine ne peut demeurer circonscrite à la seule ville de Marseille. Elle interroge le pays tout entier sur le mal logement, sur l'insalubrité de nombreux immeubles dans toutes les villes de France. Peut-on dire que des leçons ont donc été tirées de ces effondrements? C'est la question que nous poserons à nos trois invités. Guillaume Vuilletet est député LREM et auteur d'un rapport remis en octobre au Premier ministre Édouard Philippe autour de cette question du logement. Christophe Robert est avec nous également, il est délégué général de la Fondation Abbé Pierre et en duplex depuis les studios d'Aix, les studios de France Bleu Provence que nous remercions de l'y accueillir. Karine Bonjour est documentariste, elle est autrice chez Parenthèse de la rue d'Aubagne, récit d'une rupture.
Vous êtes sur la ligne Info, logement indigne. Vous allez être orienté vers l'agence départementale d'information sur le logement qui va vous informer et vous accompagner dans vos démarches. Merci de taper les chiffres de votre département suivi de la touche dièse.
Voilà une ligne info logement indigne avec une voix évidemment un peu synthétique qui pourrait apparaître comme étant une voix de répondeur téléphonique ou une voix qui nous conduit vers des voyages lointains. Mais là, c'est bien plus difficile, évidemment. Qu'est-ce que cette info logement indigne, Christophe Robert, bonsoir.
Bonsoir.
C'est quoi cette ligne?
Je crois que c'est la ligne que le ministre a ouvert pour aider les personnes qui sont dans du logement indigne, un habitat insalubre, un habitat qui menace la santé des habitants, pour essayer de comprendre comment juridiquement ils pourraient faire valoir leurs droits, se défendre.
Et pour vous, Guillaume Vuilletet, c'est quoi cette ligne logement indigne? D'ailleurs, est-ce qu'il faut appeler ça un logement indigne?
On pourra revenir sur le mot qui conviendrait. Vous savez, c'est pas un hasard si on mélange un peu tout, indécence, indignité, insalubrité, péril. Ça prouve qu'on est sur des concepts qui parfois sont marchent un peu sur les pieds, qui sont parfois un peu flous et qui traduisent une complexité administrative sur laquelle, j'imagine, on va revenir. Mais ce qui est important avec cette plateforme, c'est qu'elle donne enfin la possibilité aux gens de signaler, parce que un des sujets de cet ensemble de logements qui ne convient pas, pour l'instant, on va rester sur ce vocable-là, et quand je dis qu'il ne convient pas, c'est parfois de façon dramatique. Un des problèmes, c'est en effet de détecter, de savoir. On est face à des populations souvent très fragiles, qui ne savent pas très bien comment faire pour pouvoir signaler leur situation. On est face à des travailleurs sociaux qui parfois se sentent démunis, qui ne savent pas très bien comment analyser la situation. Donc on a des moyens de communication de ce type pour pouvoir ne serait-ce que se dire c'est là, et c'est quelque chose qui est important.
Oui, c'est donc une plateforme lancée à la mi-septembre par le ministère du Logement et l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Karine, bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous depuis les studios d'Aix de France Bleu Provence et vous avez suivi depuis donc le début cette histoire de la rue d'Aubagne à Marseille dont on commémore aujourd'hui le premier anniversaire. C'était le 5 novembre de l'année dernière et vous publiez Récit d'une rupture donc aux éditions Parenthèse. Et ces questions de vocabulaire ne sont pas non plus anodines vu de Marseille. Comment parle-t-on de ceux qu'on a? Alors, ce sont des évacués, ce sont des délogés, ce sont des relogés, comment dit-on?
On les appelle les délogés, ce sont ceux qui ont été évacués de leurs immeubles parce que dangereux, les immeubles. Donc ils ont été évacués, on les appelle dorénavant les délogés, y compris ceux qui ont été relogés temporairement par les pouvoirs publics dans des logements ou dans des hébergements temporaires.
Cette catastrophe de la rue d'Aubagne donc a profondément marqué le tissu marseillais, pas simplement le tissu urbain, mais d'une certaine façon aussi la mémoire et la façon dont les Marseillais envisagent leur propre ville. Vous avez suivi cette affaire et votre livre est un livre très particulier parce que c'est un livre de documentariste, pourrait-on dire, comme on va chercher des documents pour faire un documentaire, des témoignages, des archives que l'on mélange et que l'on montre à ceux qui veulent bien les voir. Eh bien, votre récit, c'est une sorte de collage très précis de ce qui s'est passé depuis ce 5 novembre 2018 dans la rue d'Aubagne, comme s'il fallait documenter ce qui s'était passé.
Il faut documenter ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé, c'est un point de rupture, effectivement, mais c'est aussi un point de bascule dans l'histoire contemporaine de Marseille. Rien ne sera comme avant.
Mais on dit ça souvent pour beaucoup d'événements, mais vous le pensez vraiment que ça n'est pas simplement une formule pour Marseille ?
À Marseille, je ne sais pas à quelle occasion on a employé cette formule récemment, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment un point de bascule, parce que la rupture, outre la rupture technique qui a eu lieu, hélas, concernant ces deux immeubles effondrés, on peut parler vraiment d'une rupture politique, démocratique, sociale, qui s'opère actuellement, qui continue de s'opérer actuellement, dans son onde de choc se prolonge encore aujourd'hui dans Marseille.
Et c'est pour ça qu'il faut la documenter, c'est cela, Karine Bonjour.
En fait, c'est pas il faut la documenter, j'ai ressenti le besoin de la documenter, parce que il y a une production incroyable qui est apparue après le 5 novembre, comme un besoin urgent de s'exprimer sur le sujet.
Des slogans, alors chacun, des tracts, des affiches.
Voilà, chacun s'est exprimé avec son outil, si j'ose dire. Ceux qui savent écrire ou prendre la parole l'ont fait. Ceux qui savent dessiner, prendre des photos l'ont fait. Ceux qui aiment taguer les rues l'ont fait également. Et ça a été un foisonnement incroyable de productions spontanées qui ont surgi dans l'espace public. Ça m'a à la fois époustouflée et j'ai trouvé ça la plupart du temps assez beau, pertinent, et parfois même drôle. Voilà, et j'ai voulu les conserver parce que j'avais jamais vu ça en fait, ni dans Marseille ni ailleurs d'ailleurs, une production aussi foisonnante spontanément.
Oui, mais par exemple, effectivement, la photo de Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, avec cette expression fini, parti sur la photo, et on comprend quand on connaît Marseille, et en particulier la question des éboueurs de la ville de Marseille, qu'il s'agit effectivement de lui donner son congé. Christophe Robert, qu'est-ce que vous pensez de cette catastrophe de la rue d'Aubagne comme étant emblématique ou pas de ce qui se passe dans le domaine du mal-logement en France ?
Oui, c'est pour ça que je pense que ça ne sera jamais comme avant, et j'espère que ça ne sera jamais comme avant. Parce que, si vous voulez, on est face à une situation qui était connue. Un rapport d'un inspecteur général, Christian Nicole, avait pointé 40 000 logements au sein même de la ville de Marseille qui posent problème. Qui posent problème au titre de l'insalubrité, au titre de l'indignité du logement, l'indécence, etc. Et tout d'un coup, cette insuffisance chronique de réponse publique pendant plus de 20 ans nous a sauté à la figure avec une catastrophe innommable. Nous, c'est la première fois qu'on se porte partie civile dans cette affaire, dans cette information judiciaire. La Fondation Abbé Pierre est partie civile en disant... Nous dénoncions, avec d'autres bien sûr, depuis longtemps, les conditions de vie d'un certain nombre de ménages, la souffrance, la peur, le mal-être, la santé qui est abîmée, l'absence de perspective. Et puis tout d'un coup, avec cette catastrophe qui fait 8 morts, on découvre à la face du monde, en fait, une réalité extrêmement violente. Et effectivement, l'habitat indigne à Marseille est un des révélateurs de la crise du logement. Un des révélateurs durs, violents, crus.
Et qu'est-ce que ça dit ?
Mais ça dit que, faute d'autres solutions, des personnes, pour rester dans Marseille, se sont rabattues vers des logements de mauvaise qualité, parfois dangereux pour la santé, à des prix très élevés. Considérons bien que vous allez sur n'importe quel territoire où vous avez du logement social en nombre suffisant, où la maîtrise des prix s'est faite au fil des années, avec la maîtrise foncière, etc. Personne n'ira s'engouffrer dans un logement de ce type-là. Donc c'est bien un symptôme de la crise du logement et qui est le reflet d'une défaillance de politique publique très importante.
Et c'est sur ce point justement que vous avez été missionné, en l'occurrence Guillaume Vuilletet, pour pouvoir rendre un rapport que vous avez remis le mois dernier donc au Premier ministre sur ces conditions justement d'indignité et sur cette difficulté à se loger dignement dans notre pays et dans des villes comme Marseille, mais bien d'ailleurs également. Comment avez-vous été saisi de cette question et comment l'avez-vous prise en tant que rapporteur ?
Alors il y a parfois les événements rejoignent dramatiquement la réalité et la prise de conscience, entre autres de Julien de Normandie par rapport à ça, est ancienne. Lors de l'examen du projet de loi Élan, il y avait déjà eu des dispositions très fortes qui avaient été votées de façon assez consensuelle d'ailleurs, reconnaissons-le. J'avais beaucoup travaillé avec quelqu'un comme Stéphane Peu, par exemple mon collègue du groupe communiste. On a quelques désaccords sur bien des sujets, mais là on a travaillé quand même sur des thèmes communs, avec des mesures très proches. Moi sur la confiscation des biens des marchands de sommeil et lui sur entre autres sur les achats à les achats par adjudication. Bref, on a des choses, on a travaillé en commun, parce qu'on était bien conscient qu'il y avait une réalité qui était... On avait mis la poussière sous le tapis pendant
mais
des
pourquoi,
années.
Pourquoi a-t-on mis la poussière sous le tapis pendant autant d'années?
Alors, c'est pas une nuance par rapport à ce qui était dit juste avant, parce que c'est plus un complément. Il y a une très grande diversité de situations de logements indignes, y compris d'ailleurs avec, et c'est vrai aussi à Marseille, avec parfois des gens qui sont propriétaires occupants, c'est-à-dire qui occupent ces logements, qui n'ont pas les moyens de les entretenir, ou qu'ils ont acheté en pensant faire une affaire et c'est pas le cas, ou qui ont vieilli dans leur logement et qui se retrouvent dans des situations compliquées maintenant, ou encore, et c'est aussi une situation tout à fait dramatique, qui habitent dans des logements et qui ont des marchands de sommeil comme copropriétaires, qui laissent pourrir littéralement un immeuble. Je ne sais pas si c'est le cas dans ceux qui sont effondrés à Marseille, mais je sais qu'il en existe un peu partout, et qui, avec des gens qui profitent de la situation pour dégrader les conditions de vie. Donc cette extrême diversité de situations a abouti aussi à un foisonnement administratif, parce qu'il y a plein de situations qui ont des réponses différentes sur le plan administratif, et je pense que, je ne dis pas que ça a contribué à mettre la poussière sous le tapis, mais en tout cas ça a contribué à une forme d'inaction publique.
Alors il y a tout de même quelque chose, est-ce que cette grande diversité qui vient d'être décrite par Guillaume Vuitté, vous la retrouvez dans ce cas de la rue d'Aubagne à Marseille, Karine Bonjour.
Oui,
c'est-à-dire cet enchevêtrement, ces responsabilités, parce qu'on sait bien que depuis ce moment-là, les victimes de ce qui s'est passé, les délogés, se retournent, mais contre qui se retourner, envers qui poser des questions, à qui poser des questions, c'est assez délicat, et c'est le témoignage justement de cette enchevêtrement de responsabilités entre la municipalité, la communauté d'agglomération, l'État, le département, etc., etc. Et les propriétaires privés, bien évidemment.
Effectivement, visiblement, il y a un enchevêtrement. Cet enchevêtrement, il est à la fois, on pourrait dire, voilà, c'est comme ça, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Puis à Marseille, c'est souvent compliqué, et on dit souvent c'est compliqué quand on veut pas régler les problèmes. Donc en l'occurrence, effectivement, c'est très compliqué. On l'a découvert, hélas, suite à ce drame. Maintenant, c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut rien faire. C'est pas parce que c'est compliqué que il faut pas entendre les alertes, parce qu'il faut bien dire que la Fondation Abbé Pierre effectivement a depuis longtemps tiré quelques sonnettes. L'association Un Centre-Ville pour Tous, également très présente sur ce sujet à Marseille, a tiré quelques sonnettes, mais les locataires eux-mêmes, les propriétaires eux-mêmes ont tiré des sonnettes et ont alerté sur le fait que, si vous saviez le nombre de signalements qui a été fait auprès de la mairie de Marseille ou de la préfecture, hein, n'oublions pas la préfecture, depuis des années, ces signalements ne remontent jamais, parce qu'il y a aussi un problème dans les services qui traitent ces sujets, notamment à la mairie de Marseille, un service indigent, un service incompétent qui n'a pas fait remonter, qui n'a pas entendu.
Je rappelle que nous avons contacté la mairie de Marseille et qu'elle n'a pas souhaité donc participer à cette discussion.
Non, la mairie de Marseille est sourde et muette depuis un an sur ce sujet, hormis pour rappeler qu'elle a fait tout ce qu'il fallait depuis toujours, comme on peut le constater. Donc en l'occurrence, effectivement, il y a un problème d'enchevêtrement, c'est ce qui peut faire peur, et c'est ce que d'ailleurs a brandi la mairie de Marseille comme première excuse dès le départ, à savoir, c'est très compliqué, juridiquement c'est très compliqué, et puis ça c'est pas nous, c'est l'État, et puis ça c'est pas nous, c'est la métropole. Voilà, donc oui, bien sûr, c'est compliqué. À partir de là, on peut essayer de simplifier, j'espère qu'effectivement tout sera plus fluide grâce au rapport de Monsieur Vuitté et aux décisions de Monsieur de Normandie, espérons-le. Mais en attendant, il y a quand même derrière nous 30 ans d'incurie municipale et j'ajoute préfectorale.
Alors, cette complexité qu'on vient de décrire, Christophe Robert, elle peut aussi ne pas avoir que des inconvénients. En tant que président de la Fondation Abbé Pierre, vous pensez que, et on va en discuter avec Guillaume Vuitté qui est en face de vous dans ce studio et qui a rendu ce rapport au Premier ministre sur ce logement indigne ou ce logement insalubre, en l'occurrence, vous pouvez peut-être penser qu'il y a aussi volonté de protection ou capacité de protection par cet enchevêtrement ou cet ajout, ce millefeuille de décisions qui se sont accumulées au fur et à mesure des décennies.
Oui, plusieurs choses peut-être par rapport à là où nous en sommes de l'échange. Mettre en place un numéro lutte contre l'habitat indigne. Prendre des mesures législatives pour pénaliser les marchands de sommeil. Nous, on dit très bien. Mais il faut des capacités d'action pour le signalement comme pour le suivi social, juridique, comme pour aller jusqu'au bout de la procédure pour accompagner les ménages qui sont concernés par ces dispositifs.
Qu'est-ce que vous appelez des capacités d'action ?
Ben, vous savez, il suffit pas de faire une loi pour que les signalements arrivent en justice. Il faut qu'il y ait des gens qui accompagnent. Nous, on le fait, on finance des permanences, on a des permanences d'accès juridique au droit au logement. Ça prend du temps. Quand on découvre une situation, on va faire des visites sur site, on va prendre du temps avec la personne en lui disant « Mais vous savez, là, c'est pas normal de vivre dans ces conditions et vous avez des droits et on va essayer de vous les faire valoir. Oui, mais je vais perdre mon logement. » Bref, ça se fait pas juste avec un coup de téléphone, quand bien même un conseil juridique téléphonique peut être intéressant, je ne nie pas l'effort.
Oui, d'ailleurs le 0806 706 806, c'est donc ce numéro oui. de Info Logement Indigne, et moi on trouve derrière un conseiller qui répond aux questions qu'on lui pose.
Si on n'a pas des forces vives qui accompagnent les ménages pour faire valoir leurs droits, ou pour connaître leurs droits, on va pas changer la donne. Ça c'est quelque chose d'important. Ensuite, sur la question de la complexité, mais Karine Bonjour l'a dit, oui, sans doute, il faut que nous simplifions. Il faut que nous donnions de la lisibilité à cette politique de lutte contre l'habitat indigne. Et il y a des choses très intéressantes dans votre rapport, monsieur le député, que nous partageons. Mais effectivement, il faut, et je crois que vous l'avez dit aussi, que nous mesurions l'impact juridique, les conséquences juridiques des propositions que vous faites. C'est-à-dire que, effectivement, l'insalubrité, c'est pas la même chose que le péril. Il va falloir aussi continuer à travailler avec la justice, on va pouvoir peut-être unifier les polices, mais il va falloir amener les dossiers à la justice à un moment ou à un autre. Se préoccuper du droit des occupants, c'est-à-dire qu'on peut se préoccuper de l'état du bâti, qui est une des propositions sur l'habitabilité que vous faites dans ce rapport, en faisant évoluer les notions. Mais il faut aussi s'interroger sur l'entrée par les personnes elles-mêmes. Et c'est ce que l'on fait sur l'insalubrité, sur les questions de santé, par exemple. On peut aussi ajouter le fait que, vous avez dit, il y a des propriétaires occupants en difficulté. Il faut aussi qu'ils soient concernés par ces nouvelles dispositions. Et qui dit simplification ne dit pas qu'il n'y aura pas nécessité d'avoir une vraie volonté politique pour autant, parce qu'on peut déjà agir avec les outils d'aujourd'hui. Peut-être avec des outils plus simples, ça facilitera, mais c'est pas la seule condition.
Alors voilà, votre rapport, donc Guillaume Vuilleté, propose justement d'en finir avec une sorte d'enchevêtrement dont on a parlé, de responsabilité autour de ces questions d'habitat indigne, et peut-être même autour du terme lui-même. Est-ce qu'on parle d'indécent, d'insalubre, d'indigne, d'impropre? Et vous dites, en fait, il faudrait partir d'un autre point de vue, la capacité d'habiter ces lieux, et donc l'habitabilité de ces lieux, en faisant un classement de 1 à 5 et en réfléchissant à ce qu'il est possible de supprimer comme logement parce qu'ils ne sont plus habitables.
Bah, d'ores et déjà, il y a parfois, y compris dans les procédures actuelles, le fait qu'on considère que des locaux ne sont plus aptes à recevoir des logements. Vous faites ce que vous voulez dans une cave est une cave et ça ne peut pas accueillir des gens, voilà, par exemple. Un garage est un garage, ça ne peut pas accueillir des gens.
Sait malheureusement que des caves accueillent des gens et on sait que des logements qui sont en dessous du seuil d'habitabilité, justement, sont habités néanmoins par des gens.
Oui, mais par exemple, dans certaines réglementations, vous allez avoir 14 mètres carrés pour définir la taille minimale d'un logement. Et parfois, je crois que c'est 21 mètres cubes en cubage. Dans d'autres endroits, ça va être sur 9 mètres carrés. Il y a déjà des sortes d'incohérences à simplifier par rapport à ça. Christophe Reibert a raison, il n'y a aucun règlement qui remplace une volonté politique et qui remplace le fait qu'il y a une action sur le terrain. D'ailleurs, on parlait des propriétaires occupants et même parfois de certains propriétaires bailleurs. Moi, j'ai interrogé des associations qui sont proches des personnes qui habitent dans ces logements et qui disent parfois il suffit de signaler les aides aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs pour que ça permette de résoudre le problème. Donc, on a déjà des choses simples à faire et il y a une volonté politique à mettre en œuvre. Mais pour autant, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a des acteurs publics, des travailleurs sociaux, des médecins, des gens qui vont sur place, parfois même des syndics, parce qu'il y a aussi des acteurs privés du logement qui ne sont pas tous de mauvaise foi et qui ne savent pas par où prendre le sujet. Et le fait de tout résumer, et de résumer en particulier, et c'est là où je pense qu'il faut unifier les choses, quand on parle de sécurité d'un bâtiment, quand on parle de la santé de ceux qui l'occupent, on parle quand même un petit peu de la même chose. À un moment donné, je ne connais pas de logement qui soit totalement insalubre, donc la santé qui soit en jeu, alors que le bâtiment va être au top niveau. Alors peut-être dans quelques cas où avec le syndrome de Diogène, il y a des personnes qui ont des syndromes. Mais enfin, en réalité, je pense que tout ça, c'est le même problème, c'est est-ce qu'un logement peut accueillir des gens ou pas.
Mais par exemple, si vous prenez le cas de la rue d'Aubagne, vous dites, par exemple, il aurait fallu s'intéresser à la question de l'intercommunalité. Mais voilà un endroit, Marseille, qui est dans une intercommunalité, donc qui appartient donc à un secteur plus large. Pourquoi cela aurait été mieux avec une intercommunalité qui gérerait ces questions de logement insalubre ou indigne qu'avec une mairie comme la mairie de Marseille? Marseille.
Alors, le cas de Marseille est peut-être un peu à part. Un mot quand même pour dire que l'État a quand même mis le paquet, et de Normandie a quand même beaucoup mouillé la chemise.
Le ministre de la Ville et du Logement.
Sur la question. Aujourd'hui, il y a encore, et c'est beaucoup trop, 400 personnes, je crois, qui sont dans des conditions d'hébergement très précaires. Mais il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, et on a sollicité qui on pouvait. Il y a un problème là-dessus. Et pour revenir à votre question, à Marseille, il y a ce qu'on appelle un SCHS, ça fait partie des acronymes que j'ai du mal à maîtriser. C'est un service communal qui est consacré à l'hygiène et à la sécurité. Ça n'est pas si longtemps que ça que c'est au niveau intercommunal qu'on se pose la question. Et c'est vrai que dans les difficultés, il y a non seulement la profusion de ce qu'on appelle les polices administratives qui gèrent le problème, mais aussi le fait que beaucoup de gens, beaucoup d'autorités très différentes interviennent. L'ARS, donc l'État, parfois le préfet, parfois le maire, parfois la commune, et dans quelques cas l'intercommunalité. Moi, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait un chef de file, pas forcément le même partout d'ailleurs, parce que selon les territoires, si on a un territoire rural, on n'a pas forcément les moyens de faire les choses. Parfois, ce sera l'intercommunalité et parfois le département.
Karine, bonjour, puisqu'on est sur le cas de Marseille, qu'est-ce qu'on peut dire de cette proposition de Guillaume Vuilletet?
Écoutez, ça me dépasse, je vous le dis carrément, ça me dépasse. Je ne sais pas en quoi ça peut régler la question, mais très certainement les experts jugeront que c'est une bonne solution. N'oublions pas que derrière tout ça, en fait, il y a des vies. Tout à l'heure, on parlait des 8 vies prises par cet effondrement, par finalement le résultat d'une politique. Les 3500 personnes qui vivent actuellement en dehors de chez elles.
Délogées, donc.
Donc déloger 400 personnes à l'hôtel, oui, effectivement, 400 personnes à l'hôtel, mais combien actuellement dans des appartements temporaires prêtés par les bailleurs sociaux, justement, des baux temporaires de 3 à 6 mois dans lesquels ces gens ne peuvent pas inscrire leur nom sur la boîte aux lettres, ne peuvent rien afficher sur les murs et savent que de toute façon, à la fin de ce bail qui ne sera pas renouvelable, ils devront repartir et se débrouiller. Donc on n'est pas à 400 personnes qui sont à la rue là, on est à 3500 personnes évacuées. Donc quelques-uns ont pu retourner chez eux et ceux-là ont été contraints de le faire alors que, comme on le disait tout à l'heure, le bâti éventuellement avait été consolidé, n'était plus périlleux, mais les appartements eux-mêmes étaient toujours délabrés avec des plafonds tombés sur des cabines de douche, avec des rats et des cafards qui étaient arrivés entre-temps pour se régaler de tout ce qu'avaient dû laisser en urgence les gens qui étaient partis. Donc j'aimerais qu'on continue de dire qu'il y a environ 3000 personnes qui ne sont toujours pas chez elles.
Et d'ailleurs, cette colère que l'on sent en vous écoutant, eh bien, c'est la colère qu'on a entendue depuis maintenant un an du côté de Marseille.
novembre 2018, nous n'oublierons pas.
Ça fait un an, on a l'impression que c'était hier. Parce que rien n'a changé, rien n'a bougé, rien n'a été expliqué, aucune information donnée aux habitants, puis qui sont les responsables. En tout cas, tous les élus qui étaient là, ils sont encore à leur poste.
Nous sommes indignés de la communication actuelle de la mairie. Il y a aujourd'hui des victimes, des morts. Il y a aussi des centaines de personnes qui ne sont pas de simples évacuées, comme le dit la mairie, mais des victimes indirectes, traumatisées psychologiquement. Les mots ont un sens. Il est temps d'arrêter de parler de simples effondrements.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un temps du débat consacré un an après aux enseignements à tirer des effondrements de la rue d'Aubagne. On vient d'écouter des extraits de reportages des ambiances qui ont été recueillis à la fois par le collectif Copie Carbone que nous saluons du film Situation, la pleine rue d'Aubagne, mais également par Olivier Martoc, le correspondant de Radio France à Marseille. Christophe Robert.
Oui, je voudrais prolonger ce que disait Karine Bonjour, parce que quand on parle des immeubles qui ont été évacués, c'est 10% de ce qui avait déjà été identifié avant la catastrophe d'Aubagne comme potentiellement indigne, comme présentant un problème pour les habitants. Donc le problème est beaucoup plus massif que ce que nous avons déjà vu à travers ces délogés. Ensuite, constater aussi que nous sommes nus en termes de réponse politique en matière de logement pour régler cette situation. Pourquoi ?
C'est-à-dire quand la situation est aussi massive, vous voulez dire il n'y a pas de solution immédiate.
C'est même pire que ça. Ça crée de la concurrence. Parce que pour ces délogés, il faut bien apporter une réponse. Alors on va prendre les hôtels, on va prendre les hébergements d'urgence, on va solliciter tout. C'est normal, c'est le temps de l'urgence, toutes les solutions possibles. Et pendant ce temps-là, il y avait les personnes sans domicile à qui on ne pouvait plus proposer un hôtel. Ça montre à quel point Il y a une insuffisance de réponse en matière de logement, la tension qu'il y a sur les réponses sociales en matière de logement. Et c'est là où nous disons aussi au gouvernement, oui, il y a une vraie volonté, en tout cas il y a eu des démarches, il y a eu des choses qui ont été faites, nous ne sommes pas là pour dire rien ne se fait dans ce monde. Mais les choix qui ont été faits récents du gouvernement sur la question, par exemple, en 2020, on va couper 3,8 milliards d'euros sur les APL et le logement social. Eh bien, sachez que nous, à la Fondation Abbé Pierre, on analyse ça comme un risque majeur pour les années à venir en matière de réponse à la lutte contre l'habitat indigne. Parce que depuis un an, beaucoup de maires ont été sensibilisés après la catastrophe d'Aubagne. Et puis, quand ils nous appellent, ils nous disent « Alors, comment on peut faire pour régler ces problèmes d'habitat indigne? Comment vous pouvez intervenir, vous, la Fondation, ou nous conseiller, etc. ?» Et au bout du compte, il y a des maires qui disent « Mais moi, je sais qu'il y a ces situations-là. Mais je sais pas où les mettre. Les personnes.
Ah oui.
C'est-à-dire que si on prend un arrêté de péril, si on prend un arrêté d'insalubrité, eh bien, au final, quelle solution de logement s'offre à ces personnes? Et c'est le frein premier. Et comme à Marseille, il y a eu une insuffisance chronique, nous l'avons dit, depuis 20, 30 ans, nous avons dévoilé tout ça. Tout ça s'est dévoilé avec cette catastrophe. Donc, tout reste à faire dans l'urgence pour les déloger de maintenant et de demain. Et pour refondre une politique plus sociale du logement.
Guillaume Vuilleté.
Alors, il y a deux choses dans cela. D'une part, je le dis aussi dans mon rapport, je pense qu'il faut distinguer, on va dire, une partie du mal logement, enfin du logement indigne, qui est réparti sur le territoire. Vous savez, parfois, même dans ma propre commune, même dans les communes alentours, parfois on peut pousser une porte et on est un peu surpris ce qu'il y a derrière la porte. Avec des situations très dégradées qui n'apparaissent pas. Il y a un vrai problème d'identification et de signalement et qui demande une réponse. Mais qui n'est pas la même réponse que quand on a des cas d'enquistement, comme on a pu avoir sur Marseille, où c'est des quartiers entiers qui sont concernés, des copropriétés à plusieurs centaines de logements. On en a rencontré ailleurs aussi. J'ai vu des pâtés de maison à Roubaix, où il y a une politique qui est efficace, qui est très dynamique pour le faire. Quand je dis ça, on peut juger des politiques locales, mais elles sont très diversifiées, avec des gens qui font beaucoup de boulot là-dessus. Mais là, la question qui est posée par Christophe Aubert, c'est la question de la politique du logement social qui est derrière. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'est pas tout à fait nouveau en la matière. Moi, je pense que
on en construit quand même beaucoup.
On en construit beaucoup, et nous avons
beaucoup moins de ce qu'on devrait construire tout de même.
On a
pour pouvoir rattraper ce retard.
Il y a des situations très diversifiées parce qu'entre les zones dites tendues où on a une pénurie chronique du logement social et les zones qui le sont moins, c'est pas tout à fait la même problématique. Néanmoins, on a un problème de disponibilité foncière sur les zones tendues qui complexifient la chose. Moi, je pense qu'on devrait avoir une action très dynamique en la matière. Mais on a surtout assuré maintenant un mode de financement qui permet, un, d'aller plutôt sur l'investissement que sur des aides à la personne qui étaient, à mon sens, dévoyées par les APL qui allaient directement dans les comptes des bailleurs sociaux. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faut des aides pérennes et des aides qui sont à la mesure des investissements. Et puis ensuite, je pense qu'il faut aussi agir, en effet, sur la production, mais aussi sur la rénovation des logements, parce que on a des centres-villes dans nos métropoles, dans les zones métropolitaines comme l'Île-de-France, c'est celle que je connais évidemment la mieux, où il y a besoin de réinvestir.
Les députés du Val-d'Oise
on a besoin de réinvestir les centres-villes, de rénover, de mettre de la rénovation, de faire ensuite des logements conventionnés qui permettront d'accueillir le plus grand nombre. Mais c'est clair, j'écoutais ce que disait notre interlocutrice de Marseille, Karine, je crois.
Karine, bonjour.
Voilà, je ne voulais pas me montrer trop familier. J'entends, rien n'est satisfaisant, le fait de dire qu'on parle des 400 personnes qui sont à l'hôtel, les autres sont encore délogés, j'entends bien. C'est clair que c'est pas une situation qu'on va résoudre en quelques mois, malheureusement. Il y a 30 ans d'absence politique à un moment donné qui doit être réparée.
Christophe Robert, puis Karine, bonjour.
C'est la question de l'ambition qui est posée. Vous avez cité la mairie de Roubaix, qui fait un travail en matière de lutte contre l'habitat indigne tout à fait intéressant. Je voudrais prendre un autre exemple. La mairie de Paris, en 2001, qui identifie beaucoup d'immeubles, comme on l'avait vu à Marseille avant la catastrophe d'Aubagne. Elle a dit, on va s'attaquer à 1000 immeubles, qui posent un problème d'indignité, d'insalubrité, de péril, etc. Et donc, en 10 ans, ces 1000 immeubles ont été rachetés, avec des politiques foncières, avec de la préemption, pour certains transformés en logements sociaux, donc une stratégie de diversification sociale, finalement.
Un coût très élevé tout de même. Parce que quand on est dans une
capitale
comme Paris, c'est très 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 cher.
C'est là où j'allais en venir. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que ça soit l'État, les collectivités locales, et j'ai envie de dire les deux,
bien sûr,
se mobilisent financièrement sur cette lutte contre l'habitat indigne. Sans quoi vous pourrez modifier, simplifier, améliorer. Et il faut le faire. Je ne nie pas ce travail, mais vous n'aurez pas la capacité d'agir. Et c'est d'autant plus compliqué à faire dans le temps qu'il faut commencer tôt, parce que ce sont des vies derrière. C'est la santé des occupants qui est derrière. Donc, il faut vraiment mettre une vraie ambition en la matière. Et ça, ça se fait pas sans argent.
Mais c'est pour ça que sur les secteurs très particuliers d'enquistement, il faut des opérations spéciales. Et je pense que c'est un peu ce qui se fait quelque part là en ce moment sur Marseille.
Non,
parce qu'il y a une sorte de Soreca qui est l'équivalent parisien de ce qu'il y a à Marseille.
Il n'a pas encore capté un logement.
Mais qui est en train de le faire. Il y a 240 millions d'euros.
Une société justement pour pouvoir racheter.
Pour pouvoir racheter. Il y a 240 millions qui sont détectés sur 10 ans, mais parce qu'il faut aussi du temps par l'ANA pour pouvoir rénover. Je pense que justement, sur ces endroits d'enquistement, il faut absolument pouvoir faire des opérations spéciales et coup de poing pour pouvoir mettre tout le monde en ligne et agir là-dessus.
Karine, bonjour. Tout de même, il y a eu une réaction très forte, on l'a dit, depuis maintenant un an à Marseille autour de cette question de l'habitat indigne, et cela a profondément bouleversé même le tissu social, le tissu culturel, le tissu politique marseillais, parce qu'on s'approche évidemment des élections municipales, mais on peut dire que les collectifs de citoyens que l'on attend sur d'autres sujets et qu'on entend généralement sur des questions comme le réchauffement climatique, ces collectifs de citoyens se sont créés, développés depuis un an autour de cette question.
Emmanuel, je vais vous répondre avec plaisir, c'est un sujet qui m'intéresse, mais je vais quand même réagir à ce que je viens d'entendre.
Allez-y.
240 millions sur 10 ans, on est d'accord, ça fait pas beaucoup par an, c'est pas suffisant. Depuis un an, en un an, aucun des immeubles qui a été évacué n'a été rénové. Aucun.
Absolument.
Aucun n'a été abattu, aucun n'a été rénové. Donc, zéro travaux engagés au bout d'un an.
Zéro travaux d'office.
Donc ça, voilà, rien n'a été fait. Les immeubles,
Qu'est-ce qu'on appelle les travaux d'office?
C'est l'idée, excusez-moi Karine, c'est l'idée de vraiment prendre les logements, de dire on va les acheter et puis on va faire les travaux. On va les faire au propriétaire. S'il ne le fait pas, nous allons les faire, nous, la puissance publique, et on fera payer au propriétaire. Ce qu'a fait la ville de Paris pendant longtemps.
Karine, bonjour.
Donc voilà, déjà, dire qu'en un an, alors admettons qu'on ait 24 millions par an à dépenser, en un an, donc, rien n'a été fait, rien n'a été dépensé, en tout cas, dans ce sens. Par ailleurs, la ville de Marseille est riche de sa jeunesse, d'une jeunesse extrêmement dynamique, et également d'un chômage très important. Les jeunes de Marseille ne demandent que ça de reconstruire leur ville, ne demandent que ça de créer des logements, des nouveaux logements pour leur famille. On peut à la fois créer de l'emploi et créer des logements dans cette ville. Les forces sont là pour le faire. Qu'est-ce qu'on attend ? Bien sûr qu'il faut quelque chose de beaucoup plus percutant que ce qui est en train d'être proposé par les collectivités et par l'État actuellement. On a besoin d'un vrai plan de catastrophe.
Mais cela, c'est pris en charge justement par des listes, des groupements, des groupes qui se sont créés à la suite de cette catastrophe et de cette rupture de la rue d'Aubagne. Karine, bonjour.
Ce qui est pris en charge actuellement par les Marseillais, hein, on va les appeler comme ça, on peut les appeler les citoyens, les habitants, les tout un chacun marseillais. Ce qui a été pris en charge depuis un an, c'est tout. C'est simple. Tout a été pris en charge par les habitants. La solidarité, recueillir chez soi des gens qui sont à la rue, préparer des repas parce que la mairie n'en fournissait pas, payer des tickets de métro parce que les gens étaient délogés loin de chez eux et que les enfants ne pouvaient plus aller à l'école le matin sans prendre les transports en commun. Tout ça, ça a été pris en charge par les habitants eux-mêmes. Plus ou moins relayé ensuite par la mairie, de très moindre qualité que ce qu'on pouvait proposer nous les habitants. Voilà ce qui a été fait en premier lieu par les habitants de Marseille. Ensuite, ce qui a été fait, c'est l'organisation, la structuration en collectif, qui sont devenus les interlocuteurs des pouvoirs publics, la mairie, la métropole, le conseil départemental, l'État, la préfecture. Donc ces collectifs, effectivement, se sont démenés pour devenir eux-mêmes experts en moins de temps qu'il n'en a fallu aux services compétents, entre guillemets, de la mairie, par exemple. Ils sont devenus experts, ils se sont attaqués à ça, ils ont été aidés en cela par des juristes, par des architectes, des urbanistes, etc. Et ils ont élaboré une charte du relogement qui, enfin, a été signée, mais vraiment, vraiment, si j'ose dire, au forceps, a été signée par les pouvoirs publics. de façon à accueillir dorénavant, à s'engager en tout cas à ce qu'il n'y ait plus ce genre de problème. Donc les collectifs, oui, ils ont tout fait hein, avec les habitants en solidarité. Et aujourd'hui, ces collectifs, ces gens qui se sont découverts des compétences, voire des expertises, et en tout cas une grande force collective, sont bien décidés à dire ce qu'ils ont à dire dans la gestion municipale dorénavant. Alors effectivement, les élections sont l'occasion de commencer par le dire en allant voter, mais également en participant davantage à la gestion municipale.
Guillaume Vulté, est-ce que ça n'est pas d'ailleurs un exemple qu'il faudrait prendre en compte, justement, le fait que dans un moment comme celui-ci, un moment de drame comme à Marseille, eh bien les élus pourraient s'appuyer sur leur population, c'est-à-dire comme on le fait pour le pour la question du réchauffement climatique, prendre en compte qu'il y a des mouvements, il y a des choses qui sont en train de naître, le mouvement de citoyens qui peuvent être de défiance vis-à-vis des élus, ce qui arrive malheureusement ou heureusement parfois, et d'autres fois qui peuvent être des aides parce qu'ils peuvent devenir là aussi des experts au service des municipalités, au service du gouvernement, lorsqu'il s'agit justement de grands plans d'ensemble.
En l'espèce, tout ce qui peut permettre la participation des citoyens est le bienvenu. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, je voudrais faire un petit insiste sur les travaux d'office juste après. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, un des sujets, alors pas là évidemment avec un drame pareil, tout se révèle malheureusement de cette façon-là, mais un des sujets c'est de retrouver, de connaître où sont les logements indignes. Ce lien de proximité que doit faire mettre une mobilisation des habitants et des citoyens, il est fondamental en la matière. C'est comme ça aussi qu'on peut permettre de faire émerger les réalités et parfois trouver
des solutions. Mais si on a l'impression que derrière la dénonciation, le fait qu'on est signalé des événements, des lieux qui mériteraient d'être rénovés ou d'être fermés parce qu'ils sont trop dangereux, ça n'est pas pris en compte par aucune autorité, c'est quand même gênant.
D'une part, c'est peut-être un peu sévère parce que là, c'est généralisé quand même un peu les choses. Mais je voudrais quand même revenir. L'exemple des travaux d'office, c'est une bonne chose quand même. Parce que dans les travaux d'office, c'est qu'il y a une décision à un moment donné où on veut imposer des travaux à un propriétaire parce que le logement le mérite ou des parties communes et qu'il ne va pas les faire. Et donc, dans ce cas-là, en effet, la collectivité locale se substitue au propriétaire. C'est tout ça. C'est une procédure qui est extrêmement longue. Et la mairie de Paris, avec les 1000 immeubles, a fait des choses de très bien en la matière. Il ne s'agit pas de contester ça. Mais en combien de temps? Parce que derrière, et c'est ça aussi l'enjeu, c'est aussi ça l'enjeu de la simplification que nous voulons mettre en œuvre et que je veux mettre en œuvre, c'est qu'au travers de procédures plus claires, plus simples, on doit permettre et aux professionnels, mais aussi aux habitants, de pouvoir plus facilement saisir le pouvoir public.
Avec un risque tout de même, Christophe Robert, très brièvement, parce que je vais redonner la parole à Karine, bonjour, de gentrification, parce que c'est aussi ce que ne veulent pas les gens du centre-ville de Marseille et du quartier Noailles et de la rue d'Aubagne, c'est-à-dire que ces appartements qui seraient donc rénovés leur échappent au bout du compte et qu'ils soient chassés de cet endroit où ils vivaient depuis longtemps.
C'est le risque, effectivement. Et je pense que les collectifs citoyens, les habitants de Marseille ont raison d'être extrêmement prudents sur la question. C'est pour ça que, au-delà de l'intervention...
On sait comment à Paris, dans certains quartiers qui étaient des quartiers populaires,
à Paris,
cette gentrification s'est mise en place.
Partout. On sait qu'il nous faut des interventions effectives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire des numéros, des simplifications, etc., qui sont nécessaires, qu'il va falloir faire. Nous, on est prêts à s'y engager avec le député Vulté. Il faut des interventions concrètes. Ensuite, cette intervention doit être associée à la question de l'accessibilité des centres-villes urbains à l'ensemble de la population, de la diversité, aux plus riches comme aux plus pauvres, avec les catégories moyennes au milieu. Sans quoi, effectivement, on n'aura rien gagné. Au final, on aura créé de la ségrégation spatiale supplémentaire.
Karine, bonjour.
Oui, moi je peux pas entendre l'effondrement à révéler une réalité scandaleuse du logement à Marseille. Non, mais non. Ça fait des années, ça fait vraiment des décennies même, que des associations, que la presse locale, que le rapport Nicole dont vous avez parlé tout à l'heure, que la Fondation Abbé Pierre, que les habitants eux-mêmes dénoncent les conditions de leur logement. Ne laissons pas dire que on vient de découvrir et qu'il aura fallu 8 morts, ce serait parfaitement malhonnête.
Là-dessus, je suis d'accord avec
Guillaume Vulté, très brièvement,
juste pour dire que sur la gentrification, ça c'est un des engagements forts de Julien de Normandie, de dire l'objectif, et on apportera la garantie pour qu'il n'y ait pas de modification de population dans ce qui sera reconstruit à Marseille.
Merci à tous les trois, en tous les cas, d'avoir discuté. Vous, Karine, bonjour, depuis les studios de Aix de France Bleu Provence qui vous ont accueillis, nous les en remercions. Vous êtes auteur de Récits d'une rupture, rue d'Aubagne, aux éditions Parenthèse. Guillaume Vuitté, donc, qui est député LREM et auteur d'un rapport remis en octobre au Premier ministre Édouard Philippe, et Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier, Louise André à la technique, Olivier Arnay à la vidéo, Swat Boukorsa à la réalisation, Anna Buis.